Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette réunion. Avant de commencer, je vais vous demander de vérifier de bien mettre vos téléphones portables sur silencieux, de manière à ne pas être gênés par les sonneries. Je vais aussi présenter la tribune. Donc, oui, on entend pas bien, donc un peu plus fort. Okay. Donc, à ma droite, Boris Chen, qui est donc notre camarade représentant local sur Montpellier. Donc Nathalie Arthaud, notre porte-parole nationale. Et moi-même, Morgane Lachiver, donc militante de lutte ouvrière, qui est donc présidée cette réunion. Je passe la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Il faut être naïf ou menteur professionnel pour voir dans les dernières annonces de Hollande un tournant politique. Les travailleurs de Peugeot Aulnay, de Petroplus, de Goodyear, de Virgin, tous ceux qui se sont retrouvés licenciés l'année dernière, ont compris depuis longtemps que Hollande était dans le camp du patronat. À qui les travailleurs doivent-ils la suppression de jours de RTT, la diminution, si ce n'est la disparition de primes, la généralisation de la flexibilité? Au patronat, bien sûr, mais au gouvernement aussi, qui a inscrit le chantage à la compétitivité dans une loi. Et c'est sans parler de l'augmentation des annuités pour toucher une retraite pleine, c'est sans parler des augmentations d'impôts, c'est sans parler de l'augmentation de la TVA, qui est destinée à payer le crédit d'impôt compétitivité au patronat. Alors, les travailleurs n'ont pas besoin d'être experts politiques, ni de savoir si Hollande est socialiste, social-démocrate ou social-libéral, pour comprendre que le gouvernement les attaque depuis 18 mois. Et avec l'annonce du pacte de responsabilité, eh bien c'est reparti pour un tour. Oh, on peut dire que les médias sont heureux. Ils ont trouvé deux os à ronger. D'abord le pacte de responsabilité, et ensuite les coucheries de Hollande. Mais en ce qui concerne les travailleurs, le plus révoltant, c'est tout ce cinéma qui est fait autour du pacte de responsabilité. Parce qu'on nous le présente comme une nouvelle politique. Comme si cela ne faisait pas des décennies que tous les gouvernements baissent les charges au prétexte de créer des emplois. Parce que la principale mesure de ce pacte de responsabilité, eh bien c'est tout bonnement la suppression des cotisations familiales, l'équivalent de 30 à 35 milliards. Comme toujours, on nous dit que cela réduira le chômage. Le patronat prétend qu'un million d'emplois pourraient en découler. 2 millions sur renchérit Montebourg. Et pourquoi pas 3, 4 ou 5 millions? Mais de qui se moque-t-il? Le patronat et le gouvernement n'ont même pas été capables d'inverser la courbe du chômage, ne serait-ce que sur un mois. Et depuis que Hollande est élu, il y a eu 500 000 chômeurs de plus. Et ils veulent nous le faire croire qu'ils vont créer 1 million d'emplois. Depuis des décennies, plus il y a des exonérations de cotisations et plus le chômage monte. La bataille pour l'emploi est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques, pour augmenter les profits. Il n'y a aucune raison que les prestations familiales soient payées par le patronat, a eu le culot de dire Hollande. Eh bien si, la raison en est que le salaire est composé de deux parties. Une partie versée immédiatement, le salaire direct que l'on touche sur notre compte en banque, et puis une autre dont le versement est différé dans le temps et qui se fait au travers des indemnités chômage, des pensions de retraite, de l'assurance maladie et des allocations familiales. Ces cotisations, elles font partie intégrante des droits des salariés. Et les réduire, c'est s'attaquer aux travailleurs. Hollande assure qu'il va maintenir le niveau des prestations versées aux familles. On peut en douter. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles seront désormais payées par l'État, c'est-à-dire par nos impôts, ce qui revient à faire payer ce qui était une partie du salaire par les salariés eux-mêmes. Eh bien, le patronat peut être ravi, mais pour les travailleurs, c'est inacceptable. Hollande prétend que les prestations familiales seront financées par des économies faites sur les dépenses publiques. Mais là encore, ce sont les classes populaires qui paieront. Car le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers au titre des intérêts de la dette. Il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de servir de vache à lait aux grands groupes capitalistes. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Cela sonnera la fin de certaines aides et de certaines subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien, il faudra le payer en passant par des entreprises privées. Alors, pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais de sacrifices supplémentaires. Et pendant qu'ils nous joueront la comédie du pacte de responsabilité, les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Goodyear, pour ceux du transporteur Maurice Ducrot, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Goodyear fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinault, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, prospère. Alors qu'à la Bourse de Paris, le CAC 40 a augmenté de 17% en 2013 et que des centaines de milliards affluent à nouveau sur les marchés spéculatifs, le gouvernement s'attaque aux salaires et aux droits des travailleurs. Eh bien, ce gouvernement est un ennemi des travailleurs et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Le gouvernement socialiste, prétendument socialiste, est passé corps et âme dans le camp de la bourgeoisie. Mais cela ne date pas de hier. Tous ceux qui, pendant 18 mois, ont fait mine de ne pas voir et de ne pas comprendre, ont lanterné les travailleurs. Et ils ne méritent pas leur confiance. Ceux qui, comme les dirigeants du Parti communiste ou comme Jean-Luc Mélenchon, avaient appelé à voter Hollande, ont fait croire qu'il y avait quelque chose à attendre de lui. Encore aujourd'hui, il nous explique qu'il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait rejeter la politique de Sarkozy. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui si ce n'est la politique de Sarkozy? Non, il n'y avait rien à attendre de Hollande. Depuis toujours, il est dévoué à la bourgeoisie et au système capitaliste, comme l'était Jospin, comme l'était Mitterrand. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Il a été formé, sélectionné pour cela. On nous dit que nous sommes en démocratie et que la bourgeoisie choisit ses dirigeants avec les élections. Mais une série de filtres présélectionne le personnel politique en fonction de son dévouement au système et en fonction de son dévouement à la bourgeoisie qui le domine. Pour être à la tête des grandes villes, des départements, des régions, pour se retrouver au gouvernement, il faut avoir montré patte blanche vis-à-vis des financiers et des capitalistes. Il faut avoir fait la preuve de sa loyauté. Oui, le gouvernement est payé pour mener une politique anti-ouvrière. Et tous ceux qui cachent cela aux travailleurs leur mentent. Tous ceux qui prétendent, comme Mélenchon, pouvoir gouverner autrement en protégeant les intérêts des travailleurs, mais sans avoir à remettre en cause la domination de la bourgeoisie sur l'économie, la propriété privée des entreprises et les lois du marché sont des illusionnistes. Et ce n'est pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre, c'est au contraire, en étant conscients qu'au-delà du petit personnel politique, il y a la bourgeoisie, les capitalistes qui tirent les ficelles et que c'est à ce pouvoir-là qu'il faut s'attaquer. entendre gouvernement et patronat, le pacte de responsabilité, comme les accords de compétitivité, sont des accords gagnant-gagnant. Mais dans la société capitaliste, les accords gagnant-gagnant, cela n'existe pas. Tous les défenseurs du capitalisme le reconnaissent d'ailleurs. Le capitalisme, c'est la concurrence, c'est la compétition entre capitalistes. Et dans cette période de crise, c'est plus que jamais la guerre. Chacun y va d'ailleurs de son petit discours guerrier. En permanence, on nous parle de compétitivité dans la guerre économique, dans la guerre commerciale. On nous parle de mobilisation, de conquête de marché, de compétitivité. Oui, c'est la guerre entre capitalistes d'un même secteur, entre donneurs d'ordre et sous-traitants, entre agriculteurs et la grande distribution. C'est la guerre entre les chauffeurs de taxi et les voitures de tourisme avec chauffeur. La guerre entre tous les artisans et les auto-entrepreneurs. Et c'est toujours une guerre où les gros mangent les petits. Mais dans cette guerre de tous contre tous, il y en a une que les capitalistes veulent taire et cacher. C'est la guerre de classe. C'est la guerre qu'ils mènent à leurs propres travailleurs. À qui est-il demandé d'être toujours plus efficace, toujours plus compétitif? À qui est-il demandé de s'adapter, de vivre en fonction des commandes? À qui est-il demandé de sacrifier son salaire, son emploi, sa vie, en fonction des aléas de cette économie stupide? Ce sont les travailleurs qui servent de chair à canon dans cette guerre économique. Ce sont eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Eh bien, ils n'ont aucune raison à se laisser enrôler dans cette guerre où ils sont sûrs d'être perdants quand les patrons y gagnent à tous les coups. La guerre que les travailleurs ont à mener, c'est la guerre de classe. Les travailleurs doivent se battre pour eux, pour leurs revendications, pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur retraite, pour leurs droits. Et personne ne le fera à leur place. Et à partir du moment où les travailleurs engageront le bras de fer, eh bien il faut qu'ils soient prêts à aller jusqu'au bout. Si les travailleurs parviennent à arracher une partie du profit à la bourgeoisie, on l'entendra hurler, on l'entendra accuser les travailleurs de provoquer la faillite des entreprises, l'écroulement du système. Mais un système qui ne permet pas de vivre aux travailleurs et à ceux qui le font tourner est indéfendable. Une société qui prospère sur la faillite de la classe productive est une société qui doit disparaître et qui doit laisser la place au profit d'une nouvelle, dirigée cette fois par les travailleurs eux-mêmes, par les exploités, de telle façon qu'on ne laisse plus la concurrence et la loi du profit gâcher les possibilités immenses de la société. La lutte de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui la mène. Et si les travailleurs ne la mènent pas, c'est à cause, en grande partie, de leur propre direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure dans la démobilisation des travailleurs. Et une responsabilité, je l'ai dit, qui ne date pas d'hier. Cela fait bien longtemps que le Parti socialiste a abandonné toute perspective de renversement de la société capitaliste. Il est passé corps et âme dans le camp de la bourgeoisie. Mais la direction du Parti communiste a suivi le même chemin. Le Parti communiste est resté longtemps loin du pouvoir. Né en 1921, ce n'est qu'au lendemain de la guerre, en 1945, qu'il est entré au gouvernement. Il y est resté 2 ans et n'y est revenu qu'en 1981. Avec Mitterrand. Le Parti communiste a donc vécu le plus clair de son temps dans l'opposition. Mais même dans l'opposition, le Parti communiste a inculqué l'idée aux travailleurs que la raison d'être de l'activité militante était de gagner des voix, de gagner les élections, de gagner des places dans les institutions. Les tout premiers militants du Parti communiste, enthousiasmés par la révolution russe, et révoltés par l'union sacrée entre le Parti socialiste et la bourgeoisie, avaient inscrit dans leur chromosome que seules les luttes massives de la classe ouvrière pouvaient changer le sort des travailleurs. Mais pendant des décennies, la direction du PC leur a inculqué le contraire. Eh bien, c'était déjà trahir les intérêts des travailleurs. Oh, dans l'opposition, le Parti communiste a critiqué, dénoncé. Il en a appelé parfois des manifestations et aux mouvements sociaux. Mais ce n'était pas et ce n'était plus dans la perspective que ces luttes changent le cours des choses. C'était toujours pour renforcer la gauche gouvernementale et pour accompagner son retour au pouvoir. Et on a vu de quoi était capable la gauche au pouvoir, même flanquée du Parti communiste. Avec Mitterrand d'abord, avec Jospin ensuite, et maintenant avec Hollande, on sait qu'elle est capable de justifier l'injustifiable pour faire la politique que le patronat demande. Et combien de fois les ministres communistes se sont-ils retrouvés à prêcher la patience aux travailleurs, à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations? Combien d'ouvriers influencés par le Parti communiste se sont alors sentis trahis? Combien de militants ont été démoralisés et ont fini par abandonner l'activité militante? Aujourd'hui encore, sans être au gouvernement, le Parti communiste refuse de se placer dans l'opposition et continue de faire croire que le gouvernement peut encore redresser la barre. Et pour cause, pour sauver ses places dans les municipalités, le Parti communiste fait bien souvent liste commune avec le Parti socialiste. Toute honte bue, les dirigeants du PC tournent le dos aux travailleurs et continuent de distiller le poison de l'électoralisme dans leurs rangs. La politique du PC n'a plus rien d'une politique de classe. S'il leur arrive de critiquer la politique du gouvernement, c'est le plus souvent pour condamner Merkel ou les Américains, quand ce n'est pas les Chinois, c'est l'Europe ou la mondialisation. En lieu et place d'une politique de classe qui proposerait aux travailleurs de se battre pied à pied contre le patronat, ils tendent aux travailleurs le miroir aux alouettes du chauvinisme et du protectionnisme. Mais en quoi les frontières peuvent-elles protéger les travailleurs de la domination du patronat et de l'exploitation? En quoi les frontières vont-elles empêcher les patrons d'écraser les salaires, leur empêcher d'imposer des horaires insupportables? Les capitalistes sont les maîtres de l'économie, frontières ouvertes ou frontières fermées. Et fermer les frontières revient tout simplement à enfermer le loup dans la bergerie. Et cela ne peut pas être un progrès pour les travailleurs. C'est ce que le Parti communiste disait à sa fondation. À sa fondation, le Parti communiste n'avait pas seulement pour perspective de faire reculer l'exploitation, mais de la supprimer. C'était la perspective de renverser la société capitaliste et d'enlever à la bourgeoisie le pouvoir qu'elle a sur l'économie et son droit de mettre la société en coupe réglée. Eh bien, c'est avec cette perspective, avec tous les combats qui l'accompagnent, petits et grands, qu'il faut aujourd'hui renouer. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne faut pas compter sur les grandes centrales syndicales pour organiser ces combats, ni les grands, ni les petits. Récemment, les syndicats de chauffeurs de taxi, d'agriculteurs, de pêcheurs, de routiers se sont lancés dans le combat contre le gouvernement. Qu'ont fait les dirigeants de la CGT, de FO ou de la CFDT, si ce n'est passer des heures et des heures à brader les intérêts des travailleurs en discussion avec le patronat? À l'annonce du pacte de responsabilité, tout ce que le dirigeant de la CFDT a trouvé à dire au gouvernement, c'est « chiche ». Eh bien, avec de tels amis, les travailleurs n'ont plus besoin d'ennemis. Comme ce fut le cas avec l'accord national interprofessionnel, la CFDT va participer à la mise en place du pacte de responsabilité et aider le gouvernement à faire passer la pilule auprès des travailleurs. Quant à la CGT et FO, ils dénoncent à juste titre le cadeau au patronat, mais ils iront quand même à la grande messe organisée par le gouvernement avec le patronat. Pour y faire quoi ? Ce n'est pas dans les salons de Matignon qu'ils prépareront les travailleurs aux luttes indispensables. Nous savons, parce que nous sommes militants, que les luttes ne se décrètent pas. Mais on peut et on doit dire aux travailleurs que la seule issue pour le monde du travail, c'est de lutter. Que rien n'a jamais été donné aux travailleurs. Tout ce qu'ils ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par la grève, par les manifestations, non pas en discutant autour du tapis vert, mais en se faisant craindre du patronat. C'est à cette perspective, qu'il faut préparer les travailleurs. Et c'est justement ce que ne font pas les dirigeants syndicaux. Face à la séquestration par les ouvriers de Goodyear de leurs dirigeants, la direction de la CGT a déclaré que ce n'était pas de bonne méthode. Eh bien, Le Pen, le dirigeant de la CGT, n'est pas au bout de ses peines. Parce que des explosions de colère comme celle-là, il y en aura d'autres. Parce que ce n'est pas justement avec sa politique que les travailleurs pourront se défendre. C'est avec des combats qu'ils mèneront eux-mêmes, sur les mots d'ordre qu'ils auront eux-mêmes décidés et avec les méthodes qu'ils choisiront. C'est la conscience de classe et les combats que les travailleurs mèneront ensemble qui leur permettront de se défendre. C'est aussi cela qui fera reculer les idées racistes et moyenâgeuses que l'on voit aujourd'hui remonter à la surface. Puisque cela a fait l'actualité pendant des semaines, je voudrais revenir sur la guéguerre entre Valls et Dieudonné. Les travailleurs ne doivent ni rire avec Dieudonné, ni soutenir le ministre de l'Intérieur. Dieudonné n'est pas qu'un provocateur, il véhicule une vision raciste de la société. Et le racisme anti-juif ne vaut pas mieux que le racisme anti-noir, anti-arabe ou anti-musulman. Beaucoup ont été surpris en découvrant la proximité de Dieudonné avec le Front National. Mais ne nous étonnons pas, tous les racismes se ressemblent et s'assemblent. Et ceux qui s'en prennent aujourd'hui aux juifs devraient se méfier. Car demain, c'est à eux que les racistes pourraient s'en prendre. Parce que c'est comme cela que ça se passe. Quand on cherche des boucs émissaires, cela n'a jamais de fin. On s'en prend d'abord aux uns, et comme le vrai problème persiste, eh bien on passe à d'autres. Faut-il rappeler que le régime nazi, qui s'en était d'abord pris aux communistes et aux syndicalistes, s'en est pris ensuite aux juifs, mais aussi aux noirs, aux tziganes. Oh, à comparer avec Dieudonné, Valls, dans son habit de ministre de l'Intérieur, fait bien plus respectable. Mais qui a dit qu'il manquait des blancs, des blancos, des whites dans la ville d'Evry. Valls, en personne. Et quand Valls déclare, droit dans ses bottes, que les Roms ne peuvent pas s'intégrer et qu'il faut les chasser, eh bien il fouille, lui aussi, dans les poubelles du Front National. Parce que faire croire que la présence de 15 000 Roms est un problème insoluble pour un pays de 66 millions d'habitants, c'est vraiment abject. Remarquer que cela n'a d'ailleurs pas ému grand monde à la direction du Parti Socialiste. Alors oui, de Dieudonné jusqu'à Valls, en passant par le Front National et l'UMP, chacun participe du climat nauséabond. Dieudonné en bouffon sinistre, antisémite jusqu'à l'obsession, Valls en cultivant des préjugés lourds de conséquences du haut de son ministère. Eh bien, les travailleurs ne doivent pas laisser pénétrer le poison raciste dans leur rang. Quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur religion, ils sont unis dans le sort d'exploiter. Et c'est ensemble, dans le combat contre l'exploitation, qu'ils s'en libéreront. Dans le monde politique, il y a presque unanimité pour considérer que l'immigration est un problème ou qu'il y a trop d'immigrés. Mais dans les années d'après-guerre, dans les années 1960 et 1970, l'immigration était bien plus importante qu'aujourd'hui. Et elle n'était pas un problème. Pour les dirigeants patronaux, pour les gouvernants, c'était au contraire la solution pour construire le pays, pour faire tourner les usines. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce sont les travailleurs immigrés qui se chargent des tâches les plus ingrates, les plus mal payées. Alors il y a de quoi être révolté. Quand on entend qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que les immigrés ne viennent pas ici pour être des assistés. Ils viennent pour travailler, pour gagner un peu d'argent, de quoi envoyer à leur famille. Ils ne viennent pas pour prendre le logement HLM à un autre. Ils viennent pour les construire. Quant à la misère, on ne la combat pas en chassant plus miséreux que soi, mais en combattant les responsables de ce système capitaliste, où l'enrichissement des uns est basé sur l'appauvrissement des autres. Et cela, c'est vrai à l'échelle de la planète. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Afrique. Le colonialisme est fini, mais l'Afrique continue à être vidée de son sang et de ses richesses, comme au temps des colonies. Pour prélever tout ce qu'ils peuvent prélever, sans avoir à délier les cordons de la bourse, les groupes capitalistes surexploitent les travailleurs, polluent des régions entières et s'appuient sur les pires dictateurs qui soient. Ils condamnent ainsi l'Afrique au sous-développement. Et c'est cette réalité que défendent les troupes françaises qui interviennent aujourd'hui au Mali ou en Centrafrique. Eh bien, l'intérêt des travailleurs de France est de dénoncer les basses œuvres de l'impérialisme français en Afrique et d'affirmer leur solidarité avec les peuples pillés, affamés et divisés. Alors, à bas l'intervention française au Mali et en Centrafrique et retrait de toutes les troupes françaises basées en Afrique. Si des centaines de milliers de pauvres ne voient plus d'autre solution que de tenter de passer clandestinement les frontières au péril de leur vie, c'est qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Et c'est le lot de bien des travailleurs, plus près d'ici. Combien d'ouvriers espagnols, portugais, sont revenus essayer de gagner leur pain en France depuis que la crise les a privés de tout moyen de vivre dans leur pays? En France, quand on est licencié d'une usine, il s'agit de faire quelques dizaines de kilomètres pour changer de ville, dans l'espoir de retrouver du travail. Mais pour d'autres travailleurs, cela impose de changer de pays, de faire parfois des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue et d'abandonner leurs attaches. Aller là où il y a du travail, là où on peut faire vivre sa famille, est le lot de tout travailleur. C'est la raison pour laquelle Marx disait que les travailleurs n'ont pas de patrie. Parce que oui, rien n'est jamais donné au prolétaire dans ce système. Rien ne lui est jamais garanti, et pas même le droit, de se faire exploiter dans le pays où il est né. Aujourd'hui en France, de plus en plus de jeunes, diplômés ou non, tentent une carrière à l'étranger. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, à Singapour, en Australie. Enfin, tous les jours, on nous montre des reportages là-dessus. Et personne ne leur conteste ce droit. Eh bien, il n'y a aucune raison d'en priver les autres travailleurs. Quelle que soit sa nationalité, son origine ou ses papiers, tout travailleur doit être libre de circuler et de s'installer où il le souhaite. Le mouvement ouvrier conscient s'est toujours affronté à tous ceux qui voulaient opposer les travailleurs les uns aux autres pour les diviser et pour les détourner du combat à mener contre les exploiteurs. Mais le capitalisme a réalisé le brassage des travailleurs du monde entier et il les a soudés dans un sort commun. Eh bien, il faut que leur lutte pour s'émanciper devienne une lutte commune. C'est pourquoi la solidarité de classe et l'internationalisme doivent constituer les valeurs de la classe ouvrière. La gravité de la crise actuelle et les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche feront mûrir les consciences. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant d'être lanternés alors que leur situation se dégrade. Dans les mois à venir, les travailleurs auront à s'exprimer dans les élections municipales d'abord, puis pour les élections européennes, pour les élections aux députés au Parlement européen. Eh bien, il faut que les travailleurs se saisissent de ces occasions pour montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement, pour montrer qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. C'est pourquoi Lutte ouvrière présentera des candidats aux municipales dans de nombreuses listes. Dans de nombreuses villes, pardon, et à Montpellier notamment, où nous espérons pouvoir boucler la liste dans les jours à venir. Et ces élections municipales, eh bien, elles seront importantes dans la mesure où elles seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Et même si beaucoup tenteront de limiter la portée du vote aux enjeux locaux, il y aura une signification politique nationale qui sera donnée à ce vote. Les votes en faveur des partis de la majorité présidentielle seront comptabilisés comme des votes favorables au gouvernement. Et les votes en faveur des partis de droite seront comptabilisés comme des votes en faveur du retour au pouvoir de ceux que les travailleurs ont subis du temps de Sarkozy. Quant aux votes en faveur du Front National, ils seront comptabilisés comme des votes en faveur d'une politique plus répressive, une politique plus réactionnaire encore que celle de Sarkozy. Et il suffit de discuter un peu autour de nous pour savoir que des travailleurs, des chômeurs, sont tentés d'exprimer leur colère en votant pour le Front National. Ils pensent ainsi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Eh bien, ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le Front National a compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes ou d'intégristes catholiques, ne lui permettrait pas d'accéder au pouvoir. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille millionnaire fait désormais dans l'indignation sociale et dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, les petits commerçants écrasés. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint ou à quel diable se vouer, qu'elle, au moins, défend les ouvriers. Mais Marine Le Pen fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Tout le monde sait le faire, même ceux qui sont responsables de la situation. Verser des larmes de crocodile est à la portée de tout le monde, de tous les démagogues. L'avantage de Le Pen sur les autres, c'est qu'elle n'a pas gouverné. Mais si elle arrive au pouvoir, elle fera comme Sarkozy, la même politique, en pire, en plus autoritaire. Encore une fois, dans cette société et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et à s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs se préparent à gouverner contre les travailleurs, avec la peau des travailleurs. Et Le Pen ne s'en cache pas d'ailleurs. Ceux qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous, c'est-à-dire les travailleurs. Alors, ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le Front National, en se disant qu'il faut les essayer, se tirent une balle dans le pied. Parce que leur vote se retournera contre eux. Leur vote se mélangera avec ceux des pires réactionnaires, avec tous les petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA. Il se mélangera aussi avec celui des racistes. Et il sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite. Il sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs. Une politique plus dure contre les syndicats. Plus dure contre les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Leur vote pèsera peut-être, mais il pèsera dans le sens contraire aux intérêts des travailleurs. Alors non, le vote Front National n'est sûrement pas le vote de la colère. C'est le vote de la résignation. C'est le vote de tous ceux qui, faute de vouloir se battre contre la dictature patronale, inventent des boucs émissaires. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement. Mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Pour faire reculer ce patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer dans les élections, et ce sera le cas dans les prochaines municipales et aux prochaines européennes, eh bien il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre tous ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues du Parti Socialiste au Front National, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Oui, les deux prochaines élections seront l'occasion pour les travailleurs d'affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patienter, espérer une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire aux grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien qu'on impose qu'il soit réparti entre tous sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, il faut des embauches. Partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre mis au chômage. Oui, cela coûtera de l'argent au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer. Eh bien qu'ils puisent dans la fortune accumulée par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des plus petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer et aux banques. L'État a aidé les banques en prétendant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie. Eh bien, qu'elles le fassent donc. Mais les travailleurs n'ont pas à être sacrifiés pour les entreprises éclopées du système capitaliste. Tout cela n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent sert d'abord à sauver les emplois, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus essentiel, de plus vital à la population. Les actionnaires, les banquiers, le grand patronat ont de quoi voir venir, pas les classes populaires. Alors priorité doit être faite à leur emploi, à leur salaire et à leur retraite. Que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut aussi relever le SMIC à 1700 euros net. Et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, les charges. Et ce, pour tous les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Et si aujourd'hui, des salariés demandent à travailler le dimanche ou la nuit, ce n'est pas parce que ça les amuse. C'est parce qu'ils touchent justement des salaires de misère. Alors, cette question du travail du dimanche, comme la question des heures supplémentaires, masque le seul vrai problème, celui des salaires. Et les travailleurs ne pourront pas le résoudre avec des arrangements individuels. La seule solution, c'est encore une fois le combat collectif pour l'augmentation de tous les salaires et leur indexation automatique sur l'inflation, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Revendications élémentaires. Et à travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer le droit à la vie. Mais même cela, c'est trop pour la bourgeoisie. Vous connaissez son discours. Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires et embaucher est impossible. Le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions de la bourgeoisie. On ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie, les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Et les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent tout à fait normal de verser des dizaines de millions de dividendes aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et certains ont même érigé la fraude en art de gouverner. Vous avez entendu aujourd'hui comment McDo a réussi à voler près de 2,5 milliards au fisc sur ces dernières années. Alors oui, pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes des entreprises. D'éplucher toute la comptabilité. Et ils auraient ainsi la preuve qu'on leur ment quand on leur dit qu'il n'y a plus d'argent. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie des armes du patronat pour imposer leur domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. La mobilisation générale ne se décrète pas, et il ne dépend pas d'un petit groupe, ni d'aucun parti d'ailleurs, de changer la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'intervention des masses sur la scène politique, par l'évolution de l'état d'esprit de millions de travailleurs. Quel sera-t-il demain? Personne ne peut le prédire. La situation est mouvante, elle peut changer dans un sens comme dans un autre. Mais la première des choses, c'est de regarder, pour les travailleurs, c'est de regarder les choses en face. N'en déplaise à tous ceux qui pensaient que Hollande, ce serait moins pire que Sarkozy, c'est pire. Non seulement parce que la situation matérielle du monde du travail a empiré, mais aussi parce que ces 18 mois de gouvernement socialiste ont aussi fait reculer les travailleurs politiquement et moralement. C'est un constat. Le Parti socialiste fait le lit du Front national. Et beaucoup, qui sont écœurés et déboussolés par cette situation, sont aussi tentés de se réfugier dans l'abstention. Mais s'abstenir, ce n'est pas seulement se détourner de ces partis qui représentent tous les intérêts de la grande bourgeoisie. C'est se détourner de toute politique, y compris d'une politique en faveur des travailleurs. Alors, il dépend d'un parti de défendre des idées. Il dépend de militants de faire entendre leur voix. Il dépend des travailleurs d'affirmer leurs intérêts. Et c'est le sens que l'on donnera aux listes lutte ouvrière, aux municipales et aux européennes. Il est important que ce camp se fasse entendre. Il ne suffit pas de dire que l'alternance des partis de la bourgeoisie est un leurre pour les travailleurs. Il faut surtout qu'émerge un parti qui représente les intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière. Ce parti n'existe pas aujourd'hui. Les partis de gauche, qui d'ailleurs prétendent de moins en moins incarner les intérêts des exploités, sont devenus depuis longtemps des partis au service de la bourgeoisie. Ce parti ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe et s'engagent sur le terrain de l'activité militante. Les élections peuvent faire franchir un pas, si petit soit-il, dans cette direction. Ces élections permettent de faire au moins un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout et fait vivre la société. La question qui se pose aux électeurs des classes populaires est de savoir s'ils sont prêts à participer, fût-ce modestement, fût-ce avec leur simple bulletin de vote, au réveil de la conscience ouvrière. Et chacun peut y contribuer aussi en cherchant à convaincre de ses idées autour de soi, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Alors, aidez-nous dans les prochaines élections à faire entendre le camp des travailleurs contre la bourgeoisie et ses serviteurs politiques.